France Musique. France Musique, les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Emmanuel Cesson, je suis né le 17 avril 1984 à Oullins, dans le Rhône, à côté de Lyon. Et je suis artiste, avec un H, parce que je joue de la harpe.
Emmanuel Cesson, vous passez ces années de CNSM à vous trouver. Vous y entrez en 2000, vous en sortez diplômé à la fois en harmonie et en harpe en 2005. Il y a eu ce deuxième prix junior du concours Lili Laskin en 99. Vous allez en passer plusieurs des concours. Ouais. C'est sans doute important aussi dans la manière de se positionner. 2004, 2006, 2009, 2010.
Ouais.
Je les fais tous comme ça,
c'est
mais
ça.
Des grandes récompenses. 2004, vous avez 20 ans, médaille d'or à Bloomington.
Qui est notre Jeux Olympiques, qui est un peu notre plus gros concours, c'est un peu le...
Est-ce que ça vous rassure?
C'est si compliqué à expliquer. Je pense que j'avais besoin du concours international. Si j'ai pas de carotte, j'ai du mal à travailler. Ça, c'était une carotte, une grosse carotte, d'Isabelle Moretti, qui a très vite senti ma nature un peu compétitive, qui d'ailleurs m'a toujours dit de m'en méfier, m'a mis sur le programme de Bloomington dès ma deuxième année. Au CNSM, donc programme très lourd, avec beaucoup de pièces que j'avais jamais jouées. C'est à peu près 2h30 de musique, quand on met tout à côté, 4 tours. Complètement inconscient de l'enjeu.
Préparé à vous battre.
Préparé à me battre, c'est ça. À en découdre. Je me souviens même, j'avais peur de mon deuxième tour, parce que c'était celui qui était le moins prêt. Mais mine de rien, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Je suis parti avec ma harpe. Je suis pas parti seul, ma sœur est partie avec moi. Ma seconde mère, j'allais dire. Donc j'avais quand même mis vraiment toutes les chances de mon côté. Et puis moi je joue, donc la finale c'était les danses de Debussy et le concerto de Handel. J'avais écrit comme petit péteux, j'avais écrit moi-même ma cadence pour le deuxième mouvement, je voulais pas sortir les cadences du répertoire. Bon, je sors de la finale, j'étais mort de trouille pour la finale quand même, parce que c'était avec orchestre, pas beaucoup de temps pour répéter. Puis finalement pas psychologiquement préparé, dans ma tête j'avais planté mon troisième tour, je comprenais pas ce que je faisais là en fait. Et donc, résultat, ils annoncent troisième prix, c'était pas moi. Deuxième prix, c'était pas moi. Et voilà. Donc là, j'ai compris que c'était moi le premier prix. Alors, j'hallucine complètement. C'était juillet, donc juillet 2004. J'avais un prix spécial pour les danses de Debussy aussi. Énorme joie sur le moment. Mais derrière, gros coup derrière la tête, parce qu'absolument pas préparé psychologiquement à gagner. Je me souviens, il y avait dans la suite de ce concours, il y avait un symposium, le symposium de la harpe, qui est une espèce de congrès de harpistes qui a lieu tous les 3 ans, un truc comme ça, qui était à Lyon. Et donc, forcément, en tant que lauréat, on m'invite à jouer. Et là, je me suis dit, mais en fait, ce premier concert qui a suivi le concours, je pense que je me suis rarement senti aussi mal sur scène. Parce que j'avais les lauriers, en fait. Parce que moi, quand j'écoutais avant les premiers prix de concours internationaux, quand ils se plantaient, je me foutais de leur gueule. Et j'étais extrêmement intransigeant, pas par pure méchanceté, parce que j'étais également intransigeant avec moi-même. Et pour moi, j'estimais qu'un premier prix de concours international, ça devait être parfait. Et en fait, j'arrive avec mes lauriers à ce symposium, en me disant, mais en fait, je suis pas parfait, je porte maintenant ces lauriers et je les mérite pas. Les mois qui ont suivi ce concours, même l'année, je pense, qui a suivi, ça a été traversé du désert, mine de rien. Parce que je réalisais que, on n'est jamais parfait de toute façon, et donc je rencontrais encore cette impossibilité de la perfection. Et je comprenais pas. 2004, j'avais 18 ans ou 19 ans. Non, 20 ans. Ouais. Et je comprenais pas. Je comprenais pas que finalement, c'est pas ça un artiste, quoi. Que ce qui avait fait que j'avais gagné ce premier prix, c'était pas que j'avais joué parfaitement. Que c'était, qu'il y avait autre chose qui transpirait derrière. Et que ça, moi-même, j'en avais pas conscience. C'est quand même assez hallucinant, en fait, mine de rien. Que la nature transpire derrière quelqu'un et que ce quelqu'un n'en soit pas conscient lui-même.
Thank you.
va être le début d'une carrière professionnelle. Aussi, ça y est, c'est parti. Vous allez rentrer, c'est vrai, très vite à l'Opéra de Paris. On va y arriver,
mais avant,
il y a quand même le Philharmonique de Radio France dans notre belle maison. Il y a eu quand même pas mal d'expériences.
Ah, ça a été.
C'était Myung Boon Chung.
Oui. Oh là là. Ça a été à la fois génial et en même temps une très grande blessure et une grande souffrance, le Philhar. Il y a eu La Place est libérée, c'était Joël Lecoq, premier absolo du Philhar, qui prenait sa retraite. Et donc, il y avait un concours en 2002 ou 2003. Donc, moi, c'était mon premier concours d'orchestre. Et donc, moi, j'étais super prêt sur mon répertoire. Et les traits d'orchestre, ben, finalement, j'avais pas d'expérience d'orchestre. Donc, ils avaient bossé, mais finalement, je savais pas ce que c'était que jouer des traits d'orchestre. Et donc, j'arrive en finale. Je me souviens de l'ambiance terrible. Je veux dire, les concours d'orchestre, c'est l'horreur. Parce qu'on s'entend les uns les autres, travailler d'une pièce à l'autre. Puis, il y a une grosse pression. Je veux dire, mine de rien, c'est pire qu'un concours international dans le sens où il en dépend un gain de pain à vie. Et moi, j'étais aussi pressé je vous dis que mon père me soutenait financièrement, mais j'étais aussi, justement, un peu coupable. J'avais envie d'être indépendant financièrement assez vite. Et donc, première finale, Myung Woon Chung, donc dans le jury, président du jury. Bon. Je joue les traits d'orchestre, super stressé, super fragile, etc. Donc je me défends, mais comme c'était beaucoup le cas à l'époque, personne. Donc quand même, j'avais réussi mon coup, entre guillemets. Je veux dire, j'avais 17 ans, bon, je me rendais pas compte de ça parce que j'ai vu le truc de l'intérieur, mais 17 ans, en formation au CNSM, premier concours d'orchestre, finale, voilà, avec des professionnels, voilà, bon. Personne n'est pris. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu un pied dans le Philhar et forcément, ils appellent les finalistes ensuite. Donc, j'ai fait mes premières expériences, mais je me suis quand même retrouvé à faire, je ne sais plus, c'est 3 ou 4 concours au Philhar. J'arrivais toujours en finale. Il m'est arrivé une fois où j'étais seul en finale et ils n'ont pris personne. Et je pense que je vivais très mal. Alors, on a toujours cette parano. J'avais l'impression que Chung ne m'aimait pas. Alors que ça n'a juste rien à voir avec ça. Je pense que Myung Woon Chung percevait le manque d'expérience, que ça lui faisait peur, qu'il aime bien les gens solides, que moi, je faisais toujours preuve d'une certaine fragilité en finale. Ça lui ne plaisait pas. Il y avait aussi, je me souviens à l'époque, la première violon solo, c'était Elisabeth Balmas, qui avait eu cette phrase qui m'avait un petit peu fait lever les yeux au ciel en me disant « ça sert à rien que tu rentres au Philhar, tu es fait pour être soliste ». Je veux dire, quand on fait un concours d'orchestre, c'est qu'on a envie de travailler dans un orchestre. On se pose pas la question de voilà. Et puis, on peut pas être soliste en étant harpiste. C'est une chose qu'il faut répéter. Personne dans le monde aujourd'hui ne vit d'une carrière seulement de soliste. Xavier Demestre a un poste d'enseignement à Hambourg. Isabelle enseigne au CNSM de Paris. Voilà. Je veux dire, on ne peut pas faire comme Yuja Wang. C'est impossible. L'instrument s'y prête pas. Et puis voilà. Et donc, soit on a un poste d'orchestre, soit on a un poste d'enseignement. Mais pour moi, à l'époque, je voulais un poste d'orchestre. Et donc, je me prends dans les dents que. Tu fais pour être soliste. Bon, j'ai eu beaucoup de mal à le digérer. Donc, il y a eu pas mal de petites blessures comme ça. Et puis, il y a eu une autre expérience. Ça a été ma première vraie expérience d'opéra avec Myung Woon Chung. Et ça a été 2 productions. Tannhauser au Châtelet avec Peter Seifert. Et Tannhauser, c'est la partie de harpe. Je veux dire, il n'y en a qu'une qui est plus difficile chez les Wagner. C'est les Meistersinger. Mais Tannhauser, c'est mortel. C'est mortel. Et je me souviens de ce Tannhauser au Châtelet avec Myung Woon Chung. Je me souviens même que je m'étais battu pour faire des répètes moi seul avec Myung Woon Chung et le pianiste parce que j'étais jeune. Je veux dire, j'avais 19 ans à l'époque. Et voilà, il avait vu, j'avais fait mes preuves. Et après ça, j'ai gagné le concours de Bloomington. C'était donc Tannhauser au Châtelet, c'était je pense au mois de février-mars, un truc comme ça. Après ça, je gagne Bloomington. Je fais la tournée en Corée et au Japon de Carmen avec Katerina Semenchuk. Et à Orange, c'était avec Béatrice Uriamonzon, et puis il y avait Alania. Et donc voilà, j'ai fait cette tournée avec eux après ma victoire finalement à Bloomington. Et mine de rien, je refais un concours derrière et je suis toujours pas rentré. Und jeder soll von dir, wer dich mit Blut in seine Arme geschlagen. Après 4 concours infructueux au Filard, je suis rentré à l'Opéra à 21 ans, en fait, un an après le concours de Bloomington. Voilà.
Et là, ça va être parti pour 15 ans de fausse, pas uniquement à l'Opéra de Paris, ouais, mais de part et d'autre de l'Atlantique.
C'est exact. Juin 2006, c'est donc entré avec Gérard Mortier, découverte de l'Opéra, septembre 2006. Première production Salomé de Strauss avec Hartmut Enschen.
Pas mal pour la harpe.
Ah oui, et c'était Nagelstadt. C'était une nouvelle production, je sais pas si vous l'avez, avec la cage qui avance, oui, et la présence de la lune, etc. Production Mortier, donc, et ça, voilà, première expérience, Hartmut Enschen, chef très expérimenté, partie de harpe extrêmement fournie, super difficile, deux parties de harpe en correspondance, et je me retrouve à la deuxième avec une collègue qui était donc pas la deuxième harpe titulaire, Sylvie Perret de l'Opéra Paris, mais une fille avec qui je m'étais retrouvé en finale d'un concours de l'Opéra au premier concours que j'avais fait. Donc, pas très confortable comme situation. Vous imaginez, vous êtes à côté d'une personne qui a passé le concours avec vous, qui était une chouette harpiste, Iris Torossian. Mais bon, moi j'arrivais, il faut faire ses preuves. Je me souviens, j'étais pas à l'aise sur la harpe de l'orchestre, donc j'avais amené la mienne. Et c'était l'épreuve du feu, quoi. L'épreuve du feu, parce que l'opéra est quand même l'orchestre de France qui bosse le plus, avec le moins de répètes. C'est un peu à flux tendu. Et épreuve du feu, et en même temps, découverte de l'opéra. C'est-à-dire découverte que, en fait, à la différence du symphonique, du philharmonique où j'avais fait certaines séries, en fait, là, le chef sert à autre chose. C'est-à-dire que dans l'opéra, le chef sert les chanteurs, le plateau, et un vrai grand chef d'opéra, c'est quelqu'un qui va faire le travail en amont avec le chef de chant, avec les chanteurs, pour donner sa vraie vision de la pièce, et ensuite va faire son travail aussi d'orfèvre avec l'orchestre, mais ça va, en fait, il y a une marge de musicalité qui est donné au musicien d'orchestre d'opéra, qui est beaucoup plus grande que celle qui est donnée à un musicien d'orchestre symphonique. Parce que dans un orchestre symphonique, on est sur scène et le chef micromanage un petit peu. Et dans l'opéra, il peut pas faire ça. Parce qu'il a à gérer son plateau. Chaque soir, la chanteuse a un pet de travers, je sais pas, un voile sur la corde vocale, un début de bronchite, un machin. Il va devoir écouter, être sensible à la ligne. Et ça va influencer sa direction. Et donc, il va pas pouvoir micromanager ses 100 musiciens dans la fosse. Et donc, ça nous laisse à nous une marge de manœuvre. Alors ça fait peur parce que
ça vous oblige à vous écouter davantage.
C'est ça, à comprendre comment s'intégrer dans le son d'un orchestre. Beaucoup plus qu'en info, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a appris ça. Et je l'ai toujours dit, l'opéra, ça a été ma plus grande école. D'une part parce que j'étais seul face à moi-même. Et j'étais seul face à cet orchestre et je devais trouver ma place. Et puis après, je me suis mis à écouter la voix aussi. David Frey, quand j'étais en colocation avec lui, il écoutait Bartoli en boucle. C'était quelqu'un qui avait un travail sur la vocalité déjà très poussé. Moi, à cette époque-là, je pense que j'étais pas prêt à ça. Et ben, c'est être dans la fosse de la Bastille, ça m'a appris ça, en fait. Mmh. Ça m'a appris à écouter, à comprendre ce que c'est qu'une phrase, qu'une ligne vocale, même si j'en avais l'instinct déjà, parce que j'y serais pas arrivé sans l'avoir, mais à le ressentir d'autant plus, quoi.
France Musique, les grands entretiens d'Emmanuel Cesson.
Je je trouve que l'opéra est la forme d'art dans la musique classique qui est le plus aboutie, en fait, parce que il y a une forme de drame qui est présente, qui est jouée par la voix humaine, et puis derrière il y a cet orchestre, cette masse orchestrale qui doit à la fois aider, des fois contredire, des fois bref, et tout ça, mine de rien, ça nous donne une pression supplémentaire. Moi, je trouve que il m'a fallu très très longtemps pour être à l'aise en fausse. Mmh. Très très longtemps, j'avais une pression énorme et je me suis jamais senti plus camouflé, encore plus parce que le rôle de la harpe dans l'opéra, souvent c'est un rôle de plus de soliste, j'allais dire, que la harpe dans l'orchestre. Vous jouez une symphonie de Mahler, déjà les parties sont pas très dures et vous jouez trois petites notes qui s'intègrent dans le son, vous vous noyez un peu dans la masse. Vous jouez un Verdi, vous êtes à poil.
Vous êtes un personnage.
Voilà, oui, vous incarnez dans le drame quelque chose qui est en train de se passer, ou un Puccini encore plus, et ça s'entend, on entend chaque note, et c'est tellement bien orchestré que on sert vraiment à quelque chose, quoi. Et donc, si on n'est pas musicalement d'équerre avec ce qui est en train de se passer, ça se perçoit, en tout cas, peut-être le public ne le perçoit pas, mais dans la fosse, nos collègues le perçoivent. Et finalement, quand on joue en orchestre, on est aussi attentif au jugement de ses collègues, hein, presque même plus, j'allais dire, qu'au jugement du public. Donc non, je me suis jamais senti plus planqué. Par contre, on est plus une famille, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans l'ombre et donc ça nous donne plus la capacité d'expérimenter. Parce que les gens ne regardent pas ou sont plus, et ça a été assez génial parce que c'est là où j'ai eu des complicités musicales avec des gens comme Frédéric Chatou, comme mon ami proche Laurent Vernet, l'alto solo qui est décédé il y a quelques semaines dans des circonstances tragiques. C'est là où j'ai appris à vraiment développer des amitiés musicales très fortes, très 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 fortes. Et puis on a une famille dans le sens où quand il y a un solo qui se passe bien, ça frotte, on frotte par terre comme ça. Et cette espèce de soutien des uns et des autres, c'est plus présent qu'en symphonique. En symphonique, vu qu'on est sur scène, on a cette espèce de tenue qu'on doit avoir. Et donc on attend la fin du concert pour dire « Oh bravo, c'était chouette ton solo », etc. Dans l'opéra, dès que le solo est fini, il y a cette espèce d'effervescence, de plaisir immédiat. Qui, moi, me satisfaisait beaucoup.
Et ça, ces affinités électives que vous trouvez avec...
Frédéric Chatou ou Laurent Vernet, oui.
Oui, c'est aussi dans cette écoute-là, cette musique de chambre à l'orchestre, en fait. C'est de la musique de chambre à 80 ou à...
Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on développe...
Ça favorise aussi, ce sont des timbres.
C'est ça. On développe son radar, on s'intègre à quelque chose. Et en plus, on a cette chance à l'Opéra de Paris de faire aussi du ballet, où là, il n'y a que l'orchestre, finalement, qui est au service de la danse. Mais finalement, là, on n'est pas en sympho, mais souvent la musique est pas super récompensante, sauf dans les grands ballets de Tchaïkovski. Mais mine de rien, on doit quand même en faire quelque chose. Ça force à se fouiller, à chercher des choses. Je veux dire, Gisèle de Adam, c'est à écouter, on met le disque, je veux dire, on s'endort au bout de deux plages. Et ben pourtant, voilà, moi j'ai des émotions que j'ai pu avoir avec le solo d'alto du pas de deux du deuxième acte. Quand il retrouve Gisèle qui est sous forme spectrale là, en Willis, et que il y a un grand solo d'alto, voilà, l'émotion que j'ai pu avoir en entendant Laurent Vernet jouer ce solo, c'était juste génial. Et puis c'est harpe et alto à plein d'endroits dans ce moment-là, c'est des émotions qu'on n'a pas en sympho.
La scène, c'est quelque chose que vous découvrez aussi. Alors, même si jamais vous êtes dans la fosse, la mise en scène, je veux dire, c'est quelque chose. Et en plus, les années Gérard Mortier, on est quand même servi dans une forme de théâtre qui est quand même à la fois visionnaire, audacieuse, iconoclaste. C'est quelque chose qui vous porte aussi, voilà, dans la manière de jouer, dans la manière de s'investir dans les partitions.
Il faut s'imaginer que moi, j'arrivais à 21 ans à l'Opéra de Paris, sans avoir aucune culture de l'opéra. J'avais les grands trucs du répertoire, peut-être La Flûte Enchantée, voilà, Carmen, parce que je l'avais écouté dans la voiture avec mes parents, mais je ne connaissais rien. J'étais inculte. Je connaissais pas le nom des chanteurs, je savais pas... Bref. Et j'arrive sous Mortier. Alors, quelle chance, parce que j'allais beaucoup au théâtre quand j'étais petit. Ma mère m'emmenait, à l'époque, il y avait le Théâtre National Populaire, ça s'appelait, le TNP, faire 3 spectacles par an, et donc j'aimais le théâtre. Et donc là, j'arrive sous Gérard Mortier, 2006, Et je découvre en fait que lui, sa vision, c'était, il mettait pas son budget sur les Netrebko ou pas seulement, j'allais dire, ce qui l'intéressait, lui, c'était le théâtre. Et moi, ça m'échappait complètement parce que comment ça, la musique, c'est pas la première chose qu'on doit servir, etc., etc. Et j'ai compris son génie en fait assez très très vite, parce que j'ai été dans la salle voir les Générales à piano. J'ai compris ce que c'était que le travail d'opéra. J'ai vu ce qui se passait sur scène, les signaux, ce que c'était qu'une mise en scène, qu'une lumière, qu'un travail de metteur en scène. Des mises en scène que j'ai eues sous Gérard Mortier. Alors, j'ai un souvenir super ému de l'affaire Makropoulos, de Varlikovski, qui m'a vraiment, vraiment, je veux dire, c'était génial. Forcément, le Salomé, parce que c'était la première. Et puis, ce qui était bien sous Mortier, c'est qu'il aimait pas les Puccini. Enfin, je pense qu'il en avait peut-être trop fait avant. Pour lui, c'était pas vraiment du théâtre. Et j'ai exploré un répertoire. Finalement, ça a été complémentaire quand je suis parti au Met plus tard, parce que j'avais pas tout joué du grand répertoire sous Mortier. J'avais eu droit à autre chose. Et j'ai compris vraiment ce que c'était que cette forme d'art complet, en fait. Et après, il y a une autre personne qui m'a énormément appris de l'opéra. C'est Alain Perroux, qui est devenu mon ami quelques années plus tard. Et quand il travaillait dramaturge à Festival Aix-en-Provence, qui maintenant est directeur de l'Opéra du Rhin. Et donc Alain m'a fait venir à Aix, et j'ai lu son bouquin. Il écrit des avant-scènes géniaux sur l'opéra, et puis sur le Broadway, etc. C'est un passionné, c'est un mec vraiment génial, Alain. Et il m'a fait découvrir des mises en scène, il m'a prêté des DVD, et voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai compris qu'en fait, et je pense que ça me correspondait tout à fait, c'est que ça, c'était parfaitement complémentaire de ma carrière de soliste. C'est que quand j'étais dans la fosse, j'étais plus un soliste. Et c'était très bien comme ça. Et j'étais au service d'autre chose, de beaucoup plus grand en fait.
Et pardonnez-moi, mais vous l'avez dit beaucoup de vous-même, le péteux, il est plus loin dans ces cas-là, ça y est,
parti. Il est jamais complètement parti, je vais vous dire, parce qu'il y a une certaine, quand on arrive à maîtriser, et ça, je vous aimais arriver encore plus au maître, quand on arrive à maîtriser une partie d'opéra en se disant qu'on va chercher encore plus loin dans la partition quelque chose. L'ego est quand même satisfait quand je parle du péteux, c'est de l'ego en fait, c'est ça. L'ego est nécessaire en tant qu'artiste, on le laisse jamais tomber. Mais finalement, il vient au service de quelque chose de plus grand, là, l'ego. Et donc on peut être fier parce que finalement la musique est plus grande aussi.
L'affaire Makropoulos de Léos Janáček pour refermer le quatrième épisode des Grands Entretiens avec Emmanuel Cesson. Réalisation Christine Amado, prise de son Michel Gassic, mixage Sébastien Royer, attaché de production Flora Sternadel. Suite et fin de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.